Kevin Laforêt, allô, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va bien aussi. Bienvenue en 2024, donc à Rembobinage année 2024. Est-ce que tu as passé de joyeuses fêtes?
Oui, assez tranquille, mais très agréable. Ça
Bon, ben
faisait du
tant.
bien de se reposer un peu.
Oui, effectivement. Ben écoute, il s'est écoulé quand même un certain temps depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour ce premier épisode de 2024, c'est de vous passer quelques films en rafale. Ça ressemble un petit peu à notre palmarès de fin d'année. On fera pas 10 films chacun. En fait, on va en parler de 4 films, peut-être même un petit peu plus, mais normalement 4 films, dont 3 un peu plus en détail. Ça durera pas 3 heures, mais voyons, on va y arriver. Ma phrase est un peu tout croche. C'est la première fois que je fais du podcast depuis un certain temps, donc vous excuserez ce dérapage. Donc, je disais, c'est ça. On va essayer de parler de certains grands films, ou en tout cas, films qui ont marqué, disons, le paysage cinématographique là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, donc depuis fin 2023, donc, et voilà, jusqu'au début 2024. Avant de commencer, j'ai envie de vous faire une annonce. Vous vous rappelez certainement qu'on a eu un Patreon, une page Patreon il y a pendant un certain temps où vous pouviez vous abonner pour encourager pieuvre.ca, encourager Rembobinage, évidemment, donc Kevin et moi-même et tous les autres collaborateurs de l'émission. On a décidé de changer les choses un peu, changer la façon dont ça va fonctionner. On va ramener le Patreon d'abord, ça c'est la première nouvelle. Et la façon dont ça va fonctionner, en fait, vous aurez 2 options qui s'offrent à vous. Bien sûr, si vous voulez nous encourager, si ça vous intéresse pas, on respecte ça tout à fait. On est déjà très heureux que vous nous écoutiez. Première option, c'est qu'on aura toujours le palier à 5 $ par mois et ça va vous donner accès, non pas un film à l'avance, une critique de film à l'avance pendant un mois, mais à des archives. On va bâtir. Bon, peut-être quand vous écouterez cet épisode-là, les archives seront déjà bâties, mais on aura ces archives de films, donc de critiques de films, toujours des films un peu plus anciens, toujours des films qui ont marqué leur époque, ou en tout cas qui ont marqué le cinéma quand ils sont sortis. Et donc, vous aurez déjà accès à ces films-là. Et cette archive-là va se bâtir à tous les mois. Donc, une fois par mois, on va rajouter un film à ces archives-là. Donc, vous aurez accès, évidemment, si vous êtes abonné au palier de 5 $. Et si jamais vous vous dites, ah, un abonnement, c'est pas tellement mon genre, bon. Et vous vous dites, ben moi, je vois que vous avez fait des critiques. Par exemple, du Seigneur des Anneaux, parce que oui, c'est dans les plans de vous faire une trilogie des critiques du Seigneur des Anneaux. Et vous dites, moi, j'adore Sam Gamgee, j'ai envie de cuisiner un lapin avec des patates comme Sam dans la série. Et vous vous dites, ça m'intéresse pas d'avoir accès aux autres critiques, je veux seulement Seigneur des Anneaux. Ça sera aussi possible parce que Patreon a maintenant une fonction boutique. Donc, vous pourrez acheter à la pièce ces épisodes-là, on va vous indiquer un prix très, très bientôt. Ça va rester abordable, évidemment. On va pas, on n'est pas là pour vous enlever votre argent durement gagné, mais c'est ça. Donc, vous aurez accès à ça en version, donc, à la pièce ou en format abonnement, donc, avec un accès à toutes les archives, là. Et comme je disais, ces archives-là vont, grossir, se développer avec le temps. Donc, voilà, l'annonce est faite. On vous mettra les détails, évidemment, dans la description de l'épisode. Vous pourrez aller sur le site Patreon, donc pour la page de Pieuvre. On va donner toutes ces informations-là, donc dans l'épisode, sur Facebook, sur la page du podcast, et ainsi de suite. Voilà, c'est fait, Kevin. Replongeons, en fait, dans ce monde du 7e art. Je veux qu'on parle tout d'abord, très, très rapidement, parce que, bon, ça fait un certain temps que c'est sorti déjà, mais surtout, c'est pas le meilleur film dont on va parler aujourd'hui. J'ai envie qu'on parle de Rebel Moon de Zack Snyder, qui est sorti fin décembre sur Netflix. Une espèce de space opéra, le Star Wars de Zack Snyder. Comment t'as trouvé ça, toi, Rebel Moon?
Ben, justement, tu sais, Zack Snyder, comme tu dis, il annonce ça comme si c'était son Star Wars. Mais si c'est son Star Wars, c'est genre sa menace fantôme, disons.
Oui, ben c'est un petit peu ça. Puis bon, Zack Snyder figure bon un peu controversé peut-être dans le domaine du cinéma, avec ses bons et ses mauvais côtés. Toi, je pense que tu avais beaucoup aimé Justice League en version
Snyder Cut. J'avais beaucoup aimé sa version du Justice League. J'ai beaucoup aimé aussi à l'époque 300, Watchmen. Mm-hmm. Ouais. Y a quand même pas mal de films qui a fait que j'ai aimé. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est pas mal son pire film.
Écoute, j'ai pas vu tous ses films, mais certainement, c'est pas son meilleur. On fera pas 30 minutes là-dessus, mais moi, je me disais, bon, la bande-annonce, ça va l'air quand même bien. C'est un peu classique, là, le méchant empire galactique. Là, il y a les rebelles qui s'opposent à cette force dominante dans la galaxie. Il y a même un personnage qui a des épées qui ont l'air des sabres laser. Je dis, OK, on voit l'influence. Ça pourrait quand même être pas pire. Tu sais, bon, j'imagine que Netflix se sont dit, c'est quand même Zack Snyder d'avoir des bonnes idées quand même. Bon, ils ont donné du budget, tout ça. Et j'ai pas compris pourquoi c'est en deux parties, puis pourquoi ça dure un total de... Ça va durer 4 heures, je pense, au total. Il y a déjà 2 heures et plus pour la première partie. J'écoutais ça, puis je me disais, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça?
Ouais, vraiment. Puis tu sais, dis, oui, on l'a répété, Star Wars, c'est clairement une influence, mais ça emprunte aussi beaucoup à Avatar, ouais. Peut-être un peu même à Dune... Au Seigneur des Anneaux aussi, tu sais, on sent que c'est comme un ramassis de plein d'influences pour donner quelque chose qui est non seulement pas très original, mais aussi c'est pas très excitant à regarder. J'ai pas trouvé ça beau visuellement.
Ouais.
Il y a pas beaucoup d'action, tu sais, il y a pas grand chose à aller chercher dans ce film-là.
Ben, écoute, à défense de Snyder, je regarde ça rapidement. Ils ont un budget de 166 millions pour les deux films. C'est pas la hauteur. Évidemment, c'est pas comme un Star Wars, le budget d'un Star Wars aujourd'hui. C'est pas le budget d'un Marvel. Donc, tu disais, bon, la beauté. Moi aussi, je trouvais qu'à un moment donné, la qualité d'image était pas bonne. Mais je pense qu'il aurait pu s'en sortir, même avec un budget limité, s'il n'y avait pas eu des choix scénaristiques vraiment bizarres. Les acteurs sont pas... Tu sais, rapidement, là, c'est ça, il y a le grand méchant Grand Empire, puis là, t'as la petite équipe de rebelles qui est menée par une ancienne officier de l'Empire, puis bon. Quelques idées intéressantes, des histoires de robots, des gens qui sont ressuscités, tout ça, je dis, OK, il y a des choix pas pires, mais d'abord, il y a une espèce de s'appuyer beaucoup, beaucoup trop sur des ralentis. Ça, j'avoue que j'ai pas compris. Tu sais, t'as pas besoin de faire un film de 134 minutes puis de dire, ben là, j'ai manqué comme 15 minutes quelque part, je vais mettre des ralentis en plus finir. L'actrice principale, qui s'appelle Sofia Boutella, pas très bonne, je sais pas très expressive. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Ben, ouais, c'est ça. Ça fait quelques films dans lesquels je la vois. Je pense que je l'avais aimé dans Climax de Gaspard Noé. Là-dedans, je l'avais trouvé le fun. Mais non, sinon, c'est pas une grande actrice, je crois, là.
Non, ben, peut-être aussi que la façon dont les personnages sont écrits, peuvent pas non plus faire des miracles, là. Je te dirais que la seule chose vraiment rigolote, c'est le fait qu'il y a les deux acteurs qui ont joué Dario dans Game of Thrones. qui sont dans ce film-là. Mais c'est ça, tu disais, bon, ça emprunte à plein de choses. On a justement le passage d'Avatar avec une espèce de bibitte volante qu'on voit plus par la suite. On nous présente des personnages en rafale et j'ai l'impression que il y a trop de personnages, à un moment donné, il y a quelqu'un, un chef rebelle qui se sacrifie noblement. Puis je me disais, on a fait connaissance avec ce gars-là il y a 15 minutes ou 20 minutes. J'ai aucun attachement à... Je sais pas qu'est-ce qui a fait que, par exemple, dans Un Nouvel Espoir, avec Han Solo, par exemple, qu'on s'attache à ce gars-là très rapidement. Puis que, tu sais, on dit, OK, il y a pas 50 personnages,
Je pense, oui. Tu sais, tu disais, c'est sûr, l'écriture du personnage est importante, mais aussi... dans Star Wars, le casting est incroyable. À peu près tout le monde dans le film, dont Han Solo, joué par Harrison Ford, une future star qui a un charisme à tout casser. Tu sais, on n'a pas ça dans Rebel Moon. Il y a à peu près personne que tu fais « Ah, wow, j'adore cet acteur-là qui a tant de charisme. »
Ben, je t'avoue que j'étais content de voir Jimin Honsu qui a joué entre autres dans Gladiator, il y a une vingtaine d'années maintenant, mais il fait aussi le même personnage qu'il faisait un peu dans Gladiator, mm-hmm. c'est-à-dire un combattant, un corps à corps, on le voit torse nu, tu sais, bon, supposément un ancien chef d'une armée, là, il y a que, bon, sa vie a pris le bord, il boit de l'alcool, il se bat dans les arènes pour survivre, tout ça, mais c'est toutes des choses qu'on a déjà vues, c'est tout un peu cliché, le grand méchant, il a l'air d'avoir 25 ans, en tout cas, bref, fait que Rebel Moon, si c'était pas clair dans notre critique est claire, c'est pas très bon. C'est un peu dommage parce que je me dis, il y aurait eu matière à, tu sais, tu peux t'inspirer. Puis à un moment donné, c'est sûr qu'aujourd'hui, 50 ans bientôt après la sortie de Star Wars, c'est dur de dire, je vais faire une épopée de science-fiction qui va être complètement originale, qui sera pas basée ni sur Star Wars, ni sur Star Trek, ni sur, toutes sortes d'autres choses, et que je vais réussir à aller chercher, cocher toutes les cases du héros, du méchant, puis du groupe de rebelles, tout ça. T'as pas le choix, à un moment donné, de piger un peu, mais tout dépend aussi de la façon dont tu piges. Là.
Oui, ben c'est ça, parce que, tu sais, moi, l'originalité à tout prix, c'est pas le seul critère. Tu sais, quand Avatar est sorti, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, ça ressemble à telle affaire, ça ressemble à telle affaire. » Mais quand t'as James Cameron, qui selon moi est vraiment un génie, un des meilleurs réalisateurs à Hollywood, il peut prendre une histoire qui est pas nécessairement originale, mais rendre ça super captivant, émouvant, avec des scènes d'action épiques. Puis c'est ça, il y a moyen de faire quelque chose que tu fais « Ok, peut-être que telle trame narrative, j'ai déjà vu ça, mais lui, il l'a fait particulièrement bien.
Mm-hmm. » Fait que, bref, pour terminer là-dessus, pour Rebel Moon, malheureusement, c'est pas à la hauteur des attentes, même si les attentes n'étaient pas excessivement élevées, là, mais bref, c'est pas à la hauteur des attentes. C'est dommage. Moi, j'avais commencé à l'écouter, puis après 45 minutes, je me disais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je veux dire, vivre ma vie de façon tellement différente puis faire autre chose de mon temps. Puis finalement, je l'écoute au complet, puis je sais pas pourquoi. Mais bref, pour qu'on puisse en parler, bien sûr, dans cet épisode-ci de Rembobinage. Je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Toi et moi, on ne recommande pas Rebel Moon.
Ben non, pas vraiment, mais à part si vous aimez vraiment la science-fiction, que vous êtes curieux. Si vous aimez Zack Snyder puis que vous voyez tous ses films, moi c'est mon cas, je me disais ben tant qu'à les avoir tous vus, je vais voir lui aussi, puis c'est sûr que je vais regarder la deuxième partie, même si j'ai pas aimé la première partie, je vais être quand même curieux de voir comment il conclut cette histoire-là.
Mais bon, moi je pense pas me rendre jusqu'à la deuxième partie. Effectivement, il y a tellement de films qui sortent.
Oh ouais, c'est sûr.
Il y a tellement de choses à voir. Puis évidemment, il n'y a pas que le cinéma. Je veux dire une hérésie, là, mais il n'y a pas que le cinéma dans la vie non plus. Donc, allez jouer dehors si vous voulez, plutôt que d'écouter Rebel Moon partie 2. Peut-être que ça sera un chef-d'œuvre, on ne sait pas. Zack Snyder, voilà, pourrait nous surprendre. Puis tu pourras venir me voir en me disant, j'avais raison, Hugo. Tu errais dans la nuit comme ça et je t'apporte la lumière de la connaissance. Trêve de facétie, on va passer au premier vrai film, entre guillemets, dont on va parler aujourd'hui, The Holdovers. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film-là, Kevin?
C'est un film que j'ai bien aimé. Moi, je l'avais vu en salle quand c'est sorti, je crois, en octobre ou novembre. Mm-hmm. Et j'avais bien aimé ça. Au début, j'étais pas trop sûr parce que pendant peut-être la première moitié du film, c'est un film qui est sympathique. Tu sais, on disait des fois des trucs un peu déjà vus. Ben, dans ce cas-là aussi, tu sais, c'est une histoire qui se passe dans un pensionnat dans les années 70. Il y a un professeur qui est assez grognon, puis pas très apprécié de ses élèves. Il se retrouve avec un jeune élève, puis au début, ils s'entendent pas. Éventuellement, il y a des liens qui se développent entre les deux. Mais peut-être, c'est ça, à la moitié du film, je me suis rendu compte que j'étais vraiment investi, puis je me suis même mis à être très ému. Puis je pense pas que j'ai pleuré, mais j'avais les yeux humides, disons, pendant la dernière partie du film.
Ben, écoute, moi aussi, j'avoue, au début, j'écoutais ça, puis j'étais pas certain, puis vraiment, ce film-là m'a convaincu. Pour la petite histoire, c'est réalisé par Alexander Payne, qui a fait entre autres Sideways, donc en 2004. Et c'est important de mentionner Sideways parce que le rôle principal du film, en fait, l'un des deux rôles principaux du film, c'est joué par Paul Giamatti, qui est notre professeur, le grognon. L'autre rôle, c'est joué par, mon Dieu, j'avais son nom sous la...
Le jeune, c'est Dominique Cessa qui le joue.
Voilà, exactement. D'ailleurs, qui est très, très bon acteur. J'ai vraiment rien à dire.
Son tout premier rôle au cinéma.
Oui. Et bon, évidemment, Paul Giamatti, c'est Paul Giamatti. Là. Joue un peu Paul Giamatti, mais ça, c'est correct. Bref, donc, c'est ça. Ça se déroule, comme tu disais, dans un pensionnat, fin 1970, début 1971. Et je me rappelle très, très bien de Sideways, où justement, Giamatti est avec son ami d'enfance. Et là, ils font le tour des vignobles en Californie. Puis là, évidemment, c'est Giamatti, sa vie a jamais vraiment levé. Son ami, c'est un acteur devenu has-been. Bref, ça va pas très bien. Et dans ce cas-ci, c'est un peu similaire. Giamatti, sa vie, ça a jamais vraiment levé non plus. Il a toujours rêvé d'être un grand professeur. Puis finalement, il est un peu coincé dans l'école, je pense, où il a eu sa formation quand il était jeune ou quelque chose comme ça.
Wow,
Et donc, bref, ils sont coincés là-dedans pendant la pause des fêtes en hiver. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans ce film-là, bon, tu mentionnais les liens qui se développent entre les deux, entre le professeur et l'élève. Je pense aussi aux personnages secondaires, dont la cuisinière, qui a, bon, on apprend qu'elle a perdu son fils au Vietnam. Il venait de finir l'école, il venait de graduer, il s'est enrôlé. Puis là, c'est ça, évidemment, en 1971, c'est la guerre du Vietnam qui va se terminer quelques années plus tard, mais c'est quand même encore la guerre. Et donc, ça, il est allé tout de suite, là, il a été envoyé là-bas, puis il est mort au combat. Cette femme-là est dévastée complètement, puis elle est en colère contre l'école, en disant « mon enfant avait droit à son avenir », tout ça, puis finalement, l'avenir a pris le bord. Il y a le concierge aussi, je pense, qui est pas là très souvent, mais qui est bon, qui est là aussi. C'est assez intéressant de voir, tu sais, ces gens-là, pas qu'on ignore d'habitude, mais tu sais, auxquels on pense peut-être moins, les employés d'entretien, puis bon, les gens qui font la bouffe. Surtout qu'à l'époque, bon, c'est ça, les professeurs, c'est tous des blancs, les étudiants, c'est pas mal tous des blancs, et là, le personnel d'entretien, c'est des noirs. Donc, il y a ça, il y a le côté raciste aussi, là, le côté un peu discrimination. Toi, est-ce que ça t'avait marqué un peu cette dynamique?
Oui, vraiment. Même que, autant que, tu sais, on disait que Paul Giamatti puis le jeune Dominique Cessa sont super bons, mais il y a beaucoup de scènes que celle qui joue la madame de la cafétéria, elle s'appelle Davine Joy Randolph. Mm-hmm. Je trouve vraiment qu'elle vole bien des scènes qu'elle apparaît, puis c'est elle qui est la plus touchante, la plus drôle. Puis c'est vraiment un rôle marquant. D'ailleurs, au Golden Globes, elle a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice de soutien.
Ah ben quoi, c'est mérité, effectivement. Bon, on ne va pas donner trop de détails, mais il y a d'exploration de ce côté-là, justement, du deuil de son enfant, qu'elle trouve c'est extrêmement difficile pour elle, parce qu'encore une fois, elle est dans l'école où son fils allait avant d'aller mourir au combat au Vietnam. Donc voilà, ce côté-là, et c'est un côté très ça m'a beaucoup fait penser en fait à la Société des poètes disparus, mm-hmm. avec Robin Williams. Bon, c'est pas exactement le même contexte, mais dans ces deux films-là, c'est le cas d'une institution où t'as l'impression qu'il y a le poids de l'institution sur tes épaules. Tu rentres là, t'es professeur, t'es étudiant, t'es employé, t'as une espèce de chape. Ça doit peser très, très lourd, métaphoriquement parlant, évidemment. Là. Mais c'est comme le poids de l'institution est là, puis tu dis tu peux pas changer vraiment les choses, tu peux pas te rebeller contre l'autorité. C'est comme, non, l'institution dit ça, tu fais ça. Toi, t'as-tu ressenti un peu cette lourdeur?
Oui, quand même. Surtout que, si je me trompe pas, le jeune principal qu'on voit dans le film, je pense que c'est pas nécessairement lui qui est un des jeunes de famille la plus riche. Mm-hmm. Tu sais, souvent, ce qui se passe dans des écoles privées, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de familles très riches. Puis, si tu viens d'une famille un peu moins aisée, tu sais, tu sens un peu la différence de privilèges, tout ça. Puis, ça se ressent, justement, cette... pas pour dire la lutte des classes, mais quand même, tu sais, à oui. petite échelle, tu ressens que, tu sais, comme à un moment donné, vers le début du film, il y a un des élèves que son père envoie un hélicoptère pour venir le chercher, pour aller, je pense, faire un voyage de ski ou quelque chose du genre. Là, tu vois vraiment, OK, ça, c'est du monde qui ont de l'argent. Là.
Oui, oui, puis tu as les cas aussi des étudiants qui se forcent pas, qui apprennent pas, qui sont peut-être pas doués ou sont bon, peuvent être un peu idiots aussi. Là, et qui se disent, ah, ben, mon père donne plein d'argent à l'école, donc je vais passer pareil, je vais réussir pareil, je vais avoir mon diplôme. Puis d'ailleurs, le directeur de l'école ressent de la pression de la part des parents en disant, ben on veut du financement pour l'école, c'est une école privée, alors bon, on va en laisser passer une coupe de dire, bon, ben il est pas bon à l'école, mais on va lui donner son diplôme quand même parce que ses parents sont riches. Donc, c'est ça, c'est un peu... plus les choses changent... en fait, plus le temps passe, plus les choses changent pas. Hein, c'est, et bref, plus ça change, plus c'est pareil. Voilà, c'est l'expression que je voulais dire. Mais je trouvais que, autant j'ai aimé The Holdovers, autant j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose un petit peu. Je trouvais que, tu sais, Giamatti est bon dans la comédie un peu plus noire. Il est bon quand ça va pas bien dans sa vie. Il est bon quand il pogne les nerfs un peu, tu sais. Il y a ça. Je veux pas que ça nécessairement. Je peux dire, bon, il veut explorer d'autres facettes de son talent. J'ai aucun problème. Mais je trouvais que c'était un petit peu léger comme film. C'était un petit peu, pas tout le temps, évidemment, là. Tout le côté du deuil, par exemple, de l'enfant, ça, très, très bien exploité, très bien présenté, mais je trouve qu'il manquait un petit quelque chose, toi. Qu'est-ce que t'en
penses? Ouais, non, je suis d'accord. Tu sais, je le classerais pas parmi les meilleurs films d'Alexander Payne. J'ai préféré, je crois, Sideways. J'ai préféré aussi, moi, mon préféré d'Alexander Payne, c'est Élection, un de ses premiers films.
Ah oui, c'était bon, ça.
Reese Witherspoon puis Matthew Broderick, qui était sorti, je pense, il y a 25 ans cette année, là, donc ça nous rajeunit pas. Non. Mais non, quand même, j'ai trouvé que c'était... T'sais, oui, il peut manquer quelque chose pour dire « Ah, OK, c'est le film de l'année » ou whatever, mais j'ai quand même beaucoup aimé ça. T'sais, le côté film de Noël mélancolique, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher quand même. Le côté une gang de pokés dans une école, puis finalement, ils réussissent à se faire une petite célébration, puis... Je sais pas, il y a quelque chose de... comme je disais, ça m'a ému quand même.
Oui, ben moi aussi, en bonne partie, il y a une scène à un moment donné où justement, entre Giamatti puis la chef, je m'excuse, j'oublie son nom, Davine, voilà, Joy Randolph, et ils se parlent pas beaucoup, puis ils s'aiment, en fait, elle aime pas parce que j'ai l'impression qu'elle considère qu'il représente l'establishment, puis justement l'establishment qui a fait en sorte que, bon, c'est son garçon noir qui est allé mourir au Vietnam alors que il y a plein de garçons blancs qui ont eu des passe-droits pour éviter d'être conscrits. Mais il y a des moments comme ça, quasiment que du non-dit, puis il se rapproche un peu, puis bon, justement, dans l'esprit des fêtes, puis de dire, bon, mais regarde, ce qui est important, finalement, c'est les relations humaines entre deux personnes, c'est pas nécessairement l'institution, ou c'est pas les gens, tu sais, bon... les patrons qui sont pas là ou les dirigeants qui sont partis, c'est, tu sais, on est entre nous puis il faut faire avec. De ce côté-là, j'ai beaucoup aimé ça. Mais c'est ça, c'est un bon film, même parfois très bon, mais c'est quelque chose. Je veux dire, ça m'empêche pas de le recommander quand même là. J'imagine que toi aussi. Là.
Oui, c'est ça. Puis même, je le recommande. Puis je pense que t'sais, vous pouvez le voir maintenant, mais je pense que ça va être le fun de le revoir ou de le voir pour la première fois. À la fin de l'année, tu sais, quand on arrive en novembre, décembre, proche du temps des fêtes, parce que, tu sais, même si c'est pas, Elf ou Home Alone ou whatever, mais c'est quand même clairement un film qui se passe dans le temps de Noël, le jour de l'an, tout ça, puis il y a vraiment des éléments qui font que, je pense que quand on est dans cette ambiance-là de fin d'année, c'est le fun de voir ce genre de film-là. Là.
Ouais, puis bon, c'est probablement plus un vrai film de Noël que Die Hard, même si je risque de fâcher quelques personnes.
C'est un autre débat.
Passons à notre troisième film de cet épisode de récapitulatif. On change de style complètement. On retrouve un ami du podcast, Nicolas Cage. On va parler de Dream Scenario. Mon Dieu, j'ai la misère avec mon anglais aujourd'hui. Voilà, Dream Scenario. On va le prononcer à la québécoise. Réalisé, scénarisé par Christopher Borgli, que je ne connaissais pas.
C'est un Scandinave, je crois. J'ai pas vu ses autres films.
Ben, je pense qu'en fait, c'est son troisième long métrage. Mais le reste,
mais,
j'ai pas.
Ça, mais je pense pas le... je peux me tromper, mais il me semble que c'est genre son, possiblement son premier film américain. Je pense qu'il a fait des films. Je sais pas si tu vois devant toi, il vient de. Je sais pas s'il vient de Norvège ou quelque chose du genre.
Oui, Norvège, effectivement. Il est norvégien, oui. Mais écoute, il est en 1985, donc et à peu près, ben, il y a notre âge. Donc, il y a, rien ne nous empêche.
Moi, je suis beaucoup plus vieux, mais bon.
Rien ne nous empêche, Kevin, de nous aussi retenir les services de Nicolas Cage pour un long métrage. Ça pourrait être drôle. Mais bref, donc, Dream Scenario avec, comme on disait, Nicolas Cage qui joue Balou aussi. On parle d'un autre professeur d'école, là, c'est l'université. Ça s'appelle Paul Mathieu.
Même, excuse-moi de t'interrompre, oui. J'ai remarqué quand je préparais un peu l'épisode, je prenais des notes à propos des films dont on allait parler. À la fois dans The Holdovers et dans Dream Scenario, le personnage principal, c'est un professeur qui s'appelle Paul.
Tout est dans tout. Mais par contre, je peux vous dire que dans le troisième film, il n'y a pas de... Ben, c'est question d'une université aussi. Hey, mon Dieu, j'ai même pas fait exprès. Ça n'a pas de bon sens.
On est dans des collèges dans les trois. Ouais.
Voilà, exactement. Mais
il manquait juste un collège dans Rebel Moon, puis on avait eu une thématique.
Ben, on va dire que c'est le collège spatial de la galaxie de je sais pas trop quoi. Mm. Voilà. Donc, Nicolas Cage joue Paul Mathieu, ce qui est un autre prof ennuyant, un peu plate, pas vraiment excitant. Je pense qu'il y a de la calvitie aussi là-dedans. Bref, c'est vraiment pas Nicolas Cage comme on le connaît. C'est drôle parce que moi, je me souviens, avant la fin de l'année passée, j'avais écouté Sympathy for the Devil. Je sais pas si tu l'as vu.
Oui, j'ai vu. C'était à Fantasia l'année passée. Voilà, j'ai bien aimé.
Et donc, Nicolas Cage là-dedans, complètement déjanté, complètement fou, violent, méchant, fâché, habillé avec un kit qui est un veston qui luit, je pense, ou espèce bref, vraiment flamboyant là-dedans, avec des paillettes, c'est ça le mot que je cherchais. Bref, et là, dans ce cas-ci, ennuyé au possible, il y a un prof de biologie, pas mauvaise personne, mais juste comme pas particulièrement palpitant.
Un peu un loser, là. Ouais. Ça me faisait penser à quand Nicolas Cage avait joué Charlie Kaufman dans Adaptation il y a une vingtaine d'années. Tu sais, un espèce de rôle de bonhomme névrosé, puis qui pogne pas, qui a de la misère dans la vie. Là.
Voilà, exactement. Mais Paul Mathieu se rend compte assez rapidement dans le film que des gens rêvent à lui. Et tu peux te dire, bon, une personne rêve à toi, OK, ça arrive. Mais là, ça commence à être une espèce d'effet de masse de tout le monde rêve à lui. Et ça vire mal assez vite. Parce que là, bon, les gens rêvent à lui, mais lui, comme dans les rêves des gens, commence à poser des actes violents, des agressions. Je pense que ça va jusqu'à des meurtres. À un moment donné, il y a des viols, je pense, aussi là-dedans. Évidemment, dans les rêves, là, c'est pas des actes que le personnage pose comme tel. Mais, vous pouvez vous en douter, les gens commencent à avoir peur de lui, commencent à l'insulter, commencent à vouloir l'agresser. On donnera pas tous les détails, mais bref, ça va pas bien. Et la vie de ce personnage-là commence à se délier, à se tomber en morceaux. Est-ce que tu as aimé Dream Scenario, Kevin?
Oui, j'ai adoré ça. Tu sais, ce que j'ai aimé, c'est que autant que c'est une histoire qui est complètement fantaisiste du gars qui se trouve à apparaître dans les rêves des gens, même les inconnus à travers le monde rêvent à lui. Ce qui était intéressant, c'est que tu sais, c'est comme un peu une allégorie de les phénomènes viraux, quand quelque chose devient viral, puis ça se répand à travers le monde, puis tout le monde reprend la même image ou la même phrase ou les trucs, ou tu sais, tout le concept de célébrité instantanée, notamment avec les téléréalités ou les influenceurs sur les réseaux sociaux, tout ça. Fait que c'est comme un peu une satire de tous ces phénomènes-là qui sont très de notre époque, mais à travers un concept complètement flyé. Puis comme tu disais, éventuellement, ça vire mal. Puis tu sais, ça, c'est une autre, c'est comme l'autre facette de maintenant avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, tout ça, on peut devenir instantanément célèbre et aimé à travers le monde, mais ça peut complètement se revirer de bord. Puis là, tu deviens le méchant du jour. Puis tu sais, je fais des guillemets avec mes doigts, mais tu sais, la cancel culture, là, c'est beaucoup ça aussi. Là.
Oui, puis de ce côté-là, je trouvais qu'il y a une scène assez délirante. Un peu plus loin dans le film, le personnage de Nicolas Cage va dans une agence de publicité. Et là, est au fait de sa gloire un peu. C'est avant, justement, toute l'histoire d'agression puis de violence et tout ça. Et il est accueilli par un Michael Cera qui propose des affaires complètement complètement folles, du genre, Pepsi veut te commanditer, telle grosse marque veut s'associer à ton nom. Puis là, lui, Paul Matteau, tout ce qu'il veut, c'est écrire, je pense, un livre sur les fourmis, ou je sais pas trop quoi. Il veut écrire un livre sur la biologie, sur l'évolution. Et c'est juste ça qu'il veut. Puis il veut pas rien d'autre. Il veut pas faire de show télé. Il veut pas aller dans des événements mondains. Il veut pas rien faire ou dire, tu sais, vous rêvez à moi, buvez un Pepsi ou quoi que ce soit. Là. Et comme tu disais, c'est ça, cette idée-là d'influenceur puis de viralité. C'est exactement ça. Puis ça m'a fait penser un peu à, bon, là, c'est un film qui a peut-être mal vieilli, ou en tout cas l'auteur du livre à partir duquel le film a été créé a mal vieilli, je pense, mais 99 francs, qui était basé sur un livre de Frédéric Becbédère, qui, bon, aujourd'hui, dit toutes sortes de choses qui n'ont pas d'allure, mais bref, ce film-là, ce livre-là, basé sur le monde de la publicité, puis justement du marketing et tout ça, et ça me rappelait cette œuvre-là, parce que tu dis, OK, tout ce qu'on veut, c'est vendre. Peu importe le sujet, peu importe la façon dont on vend. À un moment donné, quand ça tourne mal pour Paul Matthews, il re-rencontre Michael Cera, puis il dit, là, finalement, c'est les gens de la droite qui veulent te parler. 8chan, de tous les sites pas recommandables. Tucker Carlson veut te parler. Je pense qu'il n'a pas dit Elon Musk, mais tu sais, s'arrêter dans un peu dans le ton pour dire, bon, tu sais, Elon Musk t'aimes maintenant parce que là, t'es de droite ou quoi que ce soit. T'es associé à la droite. Je trouve ça à la fois fascinant puis révoltant parce que, parce que comme tu l'as dit, c'est cet aspect-là de du jour au lendemain, on peut devenir célèbre comme on peut devenir détesté. Mais justement, révoltant parce que pour un, puis, tu sais, je comprends, c'est leur job. Quelqu'un fasse la job, peut-être. Mais cette amoralité, peut-être. Je suis pas en train de dire que tous les gens qui font du marketing puis du PR, c'est des gens qui ont pas de morale. C'est pas ça du tout. Mais dans ce contexte-là, le personnage de Michael Cera, zéro.
Ben, c'est ça. Le but, c'est juste de faire de l'argent. C'est de prendre quelque chose dont tout le monde parle et de le récupérer puis d'essayer de le vendre à quelqu'un puis c'est comme il y a pas de morale là-dedans, c'est vraiment juste l'argent qui compte là.
Oui. Mais je te dirais, c'est bon, j'ai beaucoup aimé le film. Je te dirais qu'encore une fois, peut-être un peu comme The Holdover, je trouvais que la fin manquait un tout petit peu de punch. Je trouve que ça finit comme c'est pas vraiment une fin, il y a comme pas vraiment de conclusion. Ça peut être comme dans la vraie vie, je veux dire il y a un engouement pour quelque chose, l'engouement se tarit, la personne qui était la cible de l'engouement va pas nécessairement, soudainement, devenir un héros, devenir un méchant absolu. Toi, t'as pensé quoi de la fin? Est-ce que tu trouvais que c'était approprié?
Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est ça. Je pense dans les cas qu'on peut penser, dans la réalité, souvent, c'est ça qui se passe. C'est un peu anticlimatique, c'est juste que, bon, ben, le phénomène est passé, puis j'ai quand même aimé, je pense, la toute dernière scène, ça finit, je me semble, par un rêve avec la femme ou l'ex-femme du personnage de Nicolas Cage, puis je trouvais que c'était une scène quand même amusante, là, un peu poétique. Là.
Mm-hmm. Non, absolument. Il y a un truc qui m'a fait bien rigoler. Pendant une bonne partie du film, Michael Cera parle de, on va faire une tournée médiatique, tu vas sortir ton livre, mais c'est un livre, c'est ton autobiographie ou je sais pas trop, et on va faire une tournée en France. Et à un moment donné, ils sont en France, là ici je mets des guillemets, mais en fait, c'est le Vieux-Montréal. parce que, et ça dure une fraction de seconde, parce qu'il y a des très belles demeures ancestrales, ou entre des bâtiments plus anciens dans le Vieux-Montréal. Ça peut avoir l'air de Paris, si on regarde pas trop longtemps. Et à un moment donné, ils sont en train de marcher, et la caméra pivote, et pendant une fraction de seconde, on voit une affiche qui est écrit genre « manteau 99$ ». Et pour ça, je vais comme « OK, c'est tourné à Montréal, c'est quand, ça vous coûte beaucoup moins cher. »
J'ai pas remarqué.
Ah, oh, ben regarde, je fais juste... J'ai remarqué... Ça
a mais c'est vrai qu'il y a souvent des films qu'au lieu d'aller en France, ils vont tourner directement à Montréal.
Ben, il n'y a pas de problème non plus avec ça. C'est juste que ça m'a fait sourire. Ça n'enlève rien au film. Mais bref, est-ce que tu recommandes Dream Scenario?
Oui, je le recommande fortement, surtout si vous êtes fan de Nicolas Cage. Comme tu disais, ça fait quelques films de lui dont on parle au podcast. J'ai souvent dit que moi, c'est à peu près mon acteur préféré. J'adore son jeu, puis son côté extravagant, tout ça, puis même dans l'excès. Mais je trouve ça le fun aussi dans des films comme celui-ci, où on avait parlé de Pig il y a quelques années.
Mm-hmm.
Je trouve que c'est un acteur qui est capable quand même aussi d'être subtil, puis d'être dans la nuance, puis d'être vraiment fascinant. Fait que pour ça particulièrement, je recommande le film.
Ben, moi aussi, je te dirais que ça, moi je repensais à Sympathy for the Devil, puis je me dis je dis pas panoplie, mais tu sais, en bon français, un range, j'ai pas le bon mot en langue de Molière, mais cette capacité justement de passer d'un gars super énervé, super excité, à c'est un qui hurle, note de bise, puis là, t'as l'autre côté, à l'autre extrémité, t'as un prof d'université ennuyant, tu sais, bon, quel acteur, vraiment, je trouve, bon, j'ai pas vu ses films de la période où il faisait, il voulait faire de l'argent, j'imagine, il faisait plein de petits films avec pas beaucoup de budget.
Ben, et encore, je sais pas s'il va arrêter, mais l'an dernier, moi, je vois tous ces films qui sortent.
Okay.
Je pense que j'avais calculé qu'il avait sorti 6 films juste en 2023.
Oui, effectivement. Attends, je suis en train de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 effectivement. Dont un film de vampire que j'ai pas vu, Renfield.
Oui, il jouait Dracula.
Oui. T'avais-tu aimé ça?
C'était pas très bon, le film, mais c'était quand même drôle de voir Nicolas Cage en Dracula. Là.
OK. Bref, donc voilà. Puis il y en a deux au moins pour cette année, pour l'instant, et un pour 2025, donc qui n'est pas prévu, qui n'est pas encore sorti, évidemment, qui est en post-production. Et bref, voilà, donc, Dream Scenario avec Nicolas Cage. D'ailleurs, j'ai été, pas surpris de voir Ari Aster dans la liste des producteurs.
Oui,
c'est un peu... C'est un peu son genre aussi de...
On avait parlé au podcast de Bo is Afraid, puis il y a quand même une certaine parenté entre Dream Scenario puis Bo is Afraid, le côté très...
éclaté,
un peu surréaliste, là.
Oui, voilà, exactement. On arrive, Kevin, au dernier film, quatrième film de cet épisode de rattrapage. Un film qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et peut-être beaucoup d'eau de bain, je sais pas.
Et peut-être autre chose aussi chez spectateurs.
Certains spectateurs.
Ou spectatrices.
Spectatrices aussi. On va parler de Saltburn, qui est un film de Emerald Fennell que je ne connaissais pas.
C'est son deuxième long métrage. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi son premier film, Promising Young Woman.
C'était très bon. Ça, oui, j'en avais fait une critique, effectivement, sur Pieuvre, avec Carey Mulligan, qui joue, combat finalement la culture du viol, puis surtout la culture du bon gars, qui profite quand même des femmes saoules, mais qui disent, moi, je suis un bon gars, j'agresse pas les femmes, mais finalement, ils ramènent chez eux, puis bon, ils font des affaires qui ont pas de bon sens. Je viens de me rendre compte qu'Emerald Fennell est une femme. Je m'excuse, dans ma tête, c'était... voilà. Emerald Fennell, donc, qui a réalisé, scénarisé ce film-là et coproduit. Donc, Saltburn. Est-ce que tu aimerais un peu nous résumer l'action de Saltburn?
Oui, c'est ça. Comme on disait, ça, c'est un autre film qui se passe dans un pensionnat, comme The Holdovers. Et... Il y a encore là, il y a la question de les différences de classe entre les élèves qui viennent de familles ultra riches et le personnage principal qui s'appelle Oliver, qui est joué par Barry Keoghan. Lui, il a reçu je pense qu'il dit qu'il a reçu une bourse ou quelque chose qui est pas nécessairement super riche, puis il se retrouve dans cette école-là où qu'il y a des gens vraiment, tu sais, c'est en Angleterre, puis il y a des fortunes ancestrales là, oui. qui ont aucun bon sens. Et rapidement, dès les premières scènes du film, on comprend que lui, il arrive dans cette école-là, puis il devient obsédé par un autre élève qui s'appelle Félix, qui est joué par Jacob Elordi. Et bon, je pense que, selon ce que je comprends, cet acteur-là est considéré comme très, très, très beau, très sexy. Tout le monde sur Internet a l'air de capoter sur lui.
Il hey, a joué aussi d'ailleurs...
Comment?
C'est un bel homme, effectivement.
Ouais,
là.
Il a joué oui. Elvis dans le Priscilla de Sofia Coppola l'an dernier aussi.
OK.
Puis, c'est ça, donc, Oliver devient obsédé, pas nécessairement... Il dit qu'il n'est pas amoureux, mais clairement, il y a une grosse attirance pour ce gars-là. Puis, comme je disais, lui, Félix, il vient d'une famille ultra riche, puis c'est comme un peu le gars le plus populaire de l'école. Puis bon, je vais aller un peu plus rapidement, vu qu'on fait pas un épisode complet sur ce film-là. Après un certain temps, après la fin des classes, après les examens, Félix se retrouve à inviter Oliver à venir passer quelque temps dans le domaine de sa famille. Puis je dis domaine parce que c'est pas juste une maison, c'est vraiment encore plus même qu'un manoir.
C'est un château.
C'est un château, c'est ça. Oh. C'est la grosse richesse obscène et décadente. Puis d'ailleurs, parlant de obscène et décadent, sans révéler nécessairement tous les punchs du film, même s'il y en a beaucoup qui sont devenus des mémés sur Internet, puis ça a beaucoup circulé certaines images, certains extraits du film, mais on tombe beaucoup dans les trucs assez scabreux. Il y a ouais. de la violence, il y a du sexe, il y a plein d'affaires, il y a de la drogue. Et c'est ça, c'est un peu la décadence des riches du point de vue de quelqu'un qui est comme un peu envieux et obsédé par ça.
Ben écoute, j'aurais pas pu mieux dire. T'as fait un excellent résumé de ce film-là. J'ai commencé à l'écouter, puis je n'ai pas embarqué tout de suite. Ça a pris un certain temps. Et moi aussi, j'avais vu les mèmes, j'avais vu l'extrait avec Rosamund Pike. D'ailleurs, on reparlera de Rosamund Pike dans quelques instants, qui nous dit « Ah, moi, j'ai déjà été lesbienne, mais finalement, c'était trop humide pour moi. Il y avait ça coulait de partout. Je préfère les hommes. Qu'est-ce qu'elle dit? Sont secs et prévisibles, quelque chose de même. Ouais. » Et dans ce film-là, le jeu des acteurs, parce que tu peux les prendre au premier degré. Tu peux en prendre plusieurs au premier degré en disant, bon, c'est des Anglais riches, c'est de la vieille richesse, c'est pas des gens qui travaillent vraiment dans leur vie, ou ils travaillent, mais pas beaucoup, c'est bon. La mère, justement, Rosamund Pike, tu dis, voyons, quelle femme bizarre, et est-ce qu'elle a toute sa tête, c'est bon. Puis là, tu commences à creuser, puis tu commences à regarder, tu continues à écouter le film, puis tu te rends compte que il y a souvent un deuxième, un troisième, un quatrième niveau de sens dans les répliques, dans la façon dont les gens interagissent entre eux. Évidemment, dans un décor, le décor, écoute, on l'a dit, c'est un château. On a droit à une visite au début quand Oliver arrive au domaine de Saltburn. Et là, c'est il y a à peu près 75 pièces juste sur un étage. Puis après, il y a d'autres étages en plus. Les peintures, les bibliothèques, les meubles anciens. Et là, t'as des gens qui sont là-dedans, puis c'est un peu comme s'il y avait... comme si c'était injuste. Tu sais, on dit que... tu sais, on parlait de décadence, puis c'est comme si on te donnait... tu sais, on te donne les clés de Versailles, puis toi, tu t'installes, puis t'es comme... OK, tu mets pas le bordel, mais tu manges du McDo. Tu sais, je comprends-tu un peu ce que je veux dire?
Oui, oui. Il y a vraiment ça. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le film. Même avant qu'on arrive à Saltburn, quand on est à l'école, au collège, tu sais, le côté, vu que le film est du point de vue de Oliver, le personnage de Barry Keoghan, qui est très bon dans le film, je trouvais que je ressentais vraiment toute son aliénation. Puis, tu sais, c'est comme vraiment un observateur. Puis que vraiment... puis c'est ça, comme tu dis, il y a quelque chose de frustrant à voir des gens qui ont autant d'argent, qui ont tous les privilèges, puis toi, pas avoir accès nécessairement à ça. Puis c'est ça, quand on arrive à Saltburn, puis il fait la visite, t'es comme, ah, ça, oh, c'est ridicule, là, c'est tellement l'excès dans tout, là.
Oui, absolument. Mais ça me fait penser un peu, j'en ai déjà parlé au podcast, il y avait un documentaire qui était sorti il y a quelques années qui s'appelle Le Prix du Paradis, qui parle de Québécois riches qui vont en Floride avec leur roulotte, leur véhicule récréatif, et ils ont de l'argent, là. C'est un domaine exclusif, ça coûte je sais pas combien rentrer là, tout le monde a que des gros VR là, avec, télévision encastrée, tout ça, puis bon. Mais tu te rends compte que, bon, Saltburn, c'est moins payé, ils ont quand même une certaine classe, mais tu te rends compte que les gens, les Québécois, dans ce lieu de villégiature-là, ils ont pas de classe. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu as de la classe ou tu as de la connaissance ou de la culture. Encore une fois, moins payé avec Saltburn, parce que tu te rends compte qu'effectivement, c'est des gens quand même intelligents, même si ils sont nihilistes. Surtout les enfants, là. Je pense que les jeunes, surtout, les enfants, surtout des adultes, mais j'ai l'impression que ça, les jeunes, c'est comme, on prend de la drogue, on se couche nu dans les champs, on fait des gros parties, on a du sexe, tu sais, c'est comme, c'est pas grave, c'est la vie, on va toujours avoir de l'argent. T'as un cousin, à un moment donné, qui, on comprend, je pense que c'est pas super bien expliqué qu'est-ce qui s'est passé, il en a fait mention, mais, il a fait que ses parents ont toujours été un peu dans le besoin. Fait que là, la famille que Saltburn les a aidés. Puis ce cousin-là a dit à Oliver, moi, je peux faire ce que je veux. Je peux insulter qui je veux. Je vais toujours pouvoir revenir parce que c'est ma famille. Puis toi, t'es un moins que rien. T'es même pas un parvenu. T'es un intrus. Et je trouve que dans ce sens-là, Barry Keoghan, je sais pas si sa face habituelle, son expression habituelle, on comprend pas ce qu'il pense. On le voit un peu parce que bon, il pose des gestes, il dit des choses, mais sa face, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Toujours impassible.
On pourra pas vraiment en parler en détail, mais
non.
Considérant les révélations qu'il y a vers la fin du film, c'est vrai que, tu sais, moi j'ai vu le film deux fois, puis même la deuxième fois, il laisse pas transparaître grand-chose. On peut pas vraiment deviner c'est quoi ses vraies motivations. Mm-hmm. Je trouve que, comme je disais, il est convaincant pour jouer le premier niveau, mais c'est ça, je sais pas. Si il veut nous faire comprendre le deuxième niveau, c'est quand même assez subtil.
Oui. Encore une fois, on peut pas aller dans les détails parce qu'on pourrait dire toutes sortes de choses. Parlons, il y a le fameux scène du bain. On parlait du sexe tout ça là-dedans dans Saltburn, puis il y a toujours cette tension un peu homoérotique là entre Oliver et Félix. La fameuse scène du bain, bon, on donnera pas les détails, mais sachez que je veux dire, j'écoutais ça puis oui, c'était érotique, mais ne buvez pas l'eau du bain après que quelqu'un soit allé se laver, surtout pas dans le fond du bain. C'est dégueulasse.
Ouais.
C'est bourré de bactéries, c'est sale. Ne faites pas ça. C'est peut-être bien, bien érotique là, dans le film, mais faites pas ça à la maison.
mais moi, par rapport à ça, je voulais rebondir. Ce que je trouvais intéressant, en tout cas du moins dans le type de film que je vois habituellement, c'est rare qu'on voit un personnage masculin comme celui de Jacob Elordi qui est autant sexualisé, qui est vraiment comme un homme-objet, parce que, tu sais, on connaît, d'habitude, on entend tout le temps l'expression « femme-objet », puis les femmes sont sexualisées, puis il y a des millions de films où que c'est un réalisateur que, clairement, il était amoureux de son actrice, puis elle est présentée comme une déesse, puis tout ça. Puis là, c'est vraiment comme l'opposé de ça, c'est comme une réalisatrice, tu sais, c'est une femme qui a réalisé et scénarisé le film, puis elle présente un acteur masculin qui est, puis vraiment, à peu près tout le film est basé sur le fait que ce gars-là est super beau, puis super sexy, puis il est vraiment filmé de façon sensuelle. Là.
Oui.
Fait que c'est quand même assez rare qu'on voit ça. Là.
Oui, ben est-ce que c'est le fameux female gaze, finalement?
Oui, c'est ça, finalement. Là.
Ben, je veux dire, moi, je suis tout à fait pour qu'on objectifier les gens, c'est toujours ordinaire, mais dans le contexte du film, tu sais, c'est pas gratuit. C'est le scénario du film veut ça. On présente ce personnage-là comme étant comme ça parce que c'est le point de vue d'Oliver, surtout. Il y a une scène qui se passe dans un cimetière, en tout cas, on donnera pas d'autres détails. Mais c'est ça, c'est Oliver aussi, personnage bisexuel. Est-ce qu'il fait ça pour parvenir à atteindre un objectif? Est-ce qu'il fait ça parce que vraiment, il est bisexuel? Les deux, peut-être. Ça aussi, je trouvais ça intéressant. Puis je trouvais qu'il y avait un jeu, sans être, oui, bon, je disais l'histoire du bain, c'est un peu dégueulasse. Bon, il se passe quelque chose d'autre après aussi, dans les jardins. En tout cas, ça aussi, c'est, on pourrait dire, tu sais, arc. Mais dans le contexte du film, je trouvais que c'était juste sur la limite de c'est presque trop. Tu sais, je trouvais ça érotique, je trouvais ça excitant dans un sens. C'est pas un film porno, là, on n'est pas là du tout. Mais justement, tu sais, c'est peut-être plus excitant parce qu'on nous montre pas tout, parce qu'on nous cache des choses, parce qu'on laisse entendre des certains trucs. Toi, est-ce que ça t'a titillé un peu ou t'étais vraiment comme c'est ordinaire ou c'est trop ?
Ben moi je suis très platement hétérosexuel. Fait que moi, tu sais, objectivement, je suis capable de comprendre que oui, ce gars-là est super beau, mais tu sais, moi, j'étais comme ah ok, c'est vrai, oh, qu'il oui, est grand. Il y a des traits symétriques là, tu sais, mais
oh, oui,
t'sais, moi, c'est les quelques scènes où que c'était parfois la sœur, là, tu sais, que ouais, c'était la sœur qui était comme présentée un peu plus, tu sais, c'était plus ça que je faisais, ah, ok, ça réveillait quelque chose, mais parce que c'est ça. Mais je trouvais ça fascinant, même si, tu sais, moi, ça, l'histoire homo-érotique, ça m'excitait pas en tant que tel, là.
C'est tout à fait correct. Puis, tu sais, non plus, bon, j'étais pas non plus sur le bord de ma chaise en étant comme, ouh, tu sais, il y a pas, dans le contexte du film, je regarde un film, je trouve ça intéressant qu'on explore justement ce côté-là, ce regard féminin-là. Puis ça tombe pas... On frôle l'excès, mais on tombe pas dans l'excès. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est pas un film d'exploitation, là, c'est vraiment... j'aimerais parler... là, je sais qu'on approche de l'heure. Je voulais pas nécessairement qu'on fasse un super long épisode, mais on a quand même beaucoup de choses à dire. Et tu as tout à fait raison, Saltburn, on aurait pu faire un épisode de 45 minutes, 50 minutes, peut-être même 60. Sur ce film-là, j'aimerais parler de la direction photo. On parle souvent de scénario, des acteurs, de la musique, tout ça. On parle aussi de direction photo, mais pas très souvent. Et dans ce cas-ci, les lumières, entre autres, l'utilisation de la lumière, l'utilisation des couleurs, extraordinaire. Tu vois, toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Oui, ouais, oui, c'est visuellement sublime. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait comme un lien avec Kubrick. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu kubrickien. Mm-hmm. Notamment, il y a des scènes, tu sais, comme on disait, c'est un gros château, tout ça, c'est vraiment opulent. Puis il y a des scènes qui sont comme éclairées à la chandelle, puis tout ça. Puis il y a vraiment des atmosphères vraiment intéressantes. Puis autant aussi, tu sais, je disais, oui, la chandelle, mais il y a des scènes... genre un peu de style discothèque avec des néons puis tout ça, puis l'écran est de différentes couleurs, puis tu sais, c'est vraiment beau comme film, là.
Moi, je vois ici que la cinématographie, c'est Linus Sandgren, que je ne connais pas. Généralement, on ne connaît pas beaucoup les gens qui s'occupent de cinématographie, mais voilà, donc on le remercie, on le salue pour son excellent travail. Il a travaillé sur La La Land, entre autres. Donc, il y a déjà quelques cordes à son arc. Puis donc, effectivement, Saltburn, c'est... Il y a un moment donné... il y a un personnage qui meurt, on ne dira pas c'est qui, mais ils doivent sortir le corps du domaine. Et là, les gens dans la salle à manger disent « On va fermer les rideaux parce qu'on veut pas voir le corps. » Et là, on ferme les rideaux, puis les rideaux sont rouges. Et là, toute la scène... coloré d'un rouge vif, évidemment, en référence au sang, bon, tout ça. Ça m'a fait penser un peu aux chambres rouges aussi, dont on avait parlé, bon, pas un épisode de podcast, mais je pense que tu l'avais mis dans ton top 10, ça se peut-tu?
Il était pas dans mon top 10, mais loin, je pense qu'on en a déjà parlé. Je me souviens pas dans quel contexte. Là.
Mais bref, j'en ai fait une critique écrite. Puis toi, t'en as parlé. On en a parlé dans un épisode. Ouais. Pas spécialement là-dessus, mais bref. Donc, Les Chambres Rouges, qui a eu des bons résultats, d'ailleurs, récemment, qui est sorti en France, qui a eu des bons...
oui, je pense qu'il est déjà rendu à 25 000 entrées en France ou quelque chose du genre pour un film qui a pas nécessairement de grandes vedettes, là. Mm-hmm. Même au Québec, on connaissait pas grand monde dans ce film-là, puis encore moins en France.
Voilà. Donc, bref, fermons la parenthèse, mais... donc, c'est ça. Saltburn, excellents acteurs. Rosamund Pike, je disais, fantastique. Puis bon, pis la distribution au complet est bonne, c'est sûr, mais évidemment, bon, Barry Keoghan, Jacob Elordi, direction photo, on disait, ça aussi, très, très, très bon. J'ai vraiment, écoute, j'ai aucun point négatif sur Saltburn. Est-ce que toi, tu le recommandes?
Oui, oui, je recommande. C'est drôle, ben, je suis content de t'entendre dire que t'as beaucoup aimé le film aussi. Je me demandais si t'allais aimer ça parce que sur moi, je suis beaucoup sur Letterboxd, puis c'est vraiment un film qui a beaucoup divisé. Mm-hmm. Autant qu'il y a du monde qui adore ce film-là, qu'il y a du monde qui déteste profondément. Puis j'arrivais pas vraiment à comprendre comment tu pouvais autant haïr ce film-là. Tu sais, oui, c'est un film qui est pas nécessairement parfait, mais il semble, comme on disait, si ce n'est que la direction photo, les acteurs, tout ça, c'est quand même un film qui a des grandes qualités, selon moi, là.
Ben, peut-être que la révélation de la fin, c'est peut-être de trop. On aurait pu laisser l'ambiguïté, mais bon, on ergote un peu. Le film est sorti, ils ont choisi de faire ça comme ça. Qui sommes-nous pour... mais bref, c'est ça. Ça aurait pu être peut-être laissé dans un flou. Bon, c'est pas la fin du monde du tout. Peut-être que les gens chicanent parce que c'est présenté en 4:3. Je sais pas. Plutôt qu'en 16:9, c'est un format 4:3. C'est relativement carré. Mais bon, regarde. C'est un choix, ça aussi. Je pense que ça cadre bien avec le côté, tu sais, vieillot, vieil argent, université Oxford, tout ça, vieille Angleterre. Bref. Donc voilà, Saltburn, que moi aussi je recommande très fortement. Une de vraiment, j'ai très très belle découverte pour moi, en tout cas durant mon long temps des fêtes. Donc vraiment, là, dire que c'est excellent. Est-ce que je pense pas que ça soit sorti déjà?
Saltburn, c'est produit par Amazon, fait qu'il est disponible sur Prime Video. Si vous êtes abonné, vous y avez accès directement.
Voilà.
Puis je pense, Rebel Moon, bon, on le recommande pas vraiment, mais c'est un film de Netflix.
Oui.
Puis les deux autres films, je pense qu'ils sont en vidéo sur demande en location, là.
Bon, ben voilà, donc c'est déjà disponible si vous voulez aller écouter l'un de ces quatre films, peut-être même les quatre, même si, bon, comme disait Rebel Moon, c'est pas nécessairement une forte recommandation de notre part. Kevin, merci d'avoir pris ce temps-là pour faire ce rattrapage cinématographique avec moi.
Oui, ben merci à toi, c'est le fun de te retrouver, ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode.
Oui, ben on va retrouver, je l'espère, en tout cas ça devrait se faire nécessairement, retrouver notre rythme de croisière. Donc généralement un épisode par semaine si tout va bien. On va aussi, je le mentionnais en début d'épisode, vous préparer, bon ça sera peut-être déjà fait au moment où vous écouterez cet épisode-ci, vous aurez ces archives, donc ces critiques de films un peu plus anciens, pas nécessairement des blockbusters, mais des films qui ont marqué leur époque, certainement, auxquelles vous aurez accès, donc, à la pièce sur Patreon ou toujours sur Patreon en vous abonnant, donc, le palier de... Ben, en fait, le seul palier qu'il y aura, donc, le 5$ par mois, vous aurez, donc, accès à ces archives. En attendant, Kevin, ben, écoute, on se retrouve bientôt, ce que je l'espère.
Oui, bien sûr. Je sais que ça serait bien le fun de faire un épisode sur deuxième partie.
Oui. Ben écoute, ça s'en vient très, très, très bientôt, début mars. Donc, oui. Voilà, c'est très, très prochainement. On va faire tout à notre pouvoir, voilà, pour pouvoir vous présenter un épisode. Ça a été notre épisode qui a le plus marché la dernière fois. Donc, soyons fous et lançons-nous dans ce... Je prévois qu'il va y avoir du sable. Ça, c'est pas mal ma prédiction. Du sable et des verres. Peut-être c'est important d'aller chez le médecin si vous avez des verres, mais ça, c'est autre chose. Mais tout cas, j'aurais, l'épisode dure déjà depuis trop longtemps, mais je vais avoir une petite critique déjà sur la structure de l'univers de Dune, mais ça, c'est moi qui critique la science-fiction vieille de 60 ans, là. On peut pas réinventer la roue non plus, y compris, bon, Tolkien et tout ça, puis ça, c'est encore plus ancien. Bref, il y a des clichés comme ça, scénaristiques, qui deviennent des grandes œuvres de science-fiction ou de fantastique. On n'est pas nécessairement contre la vertu, mais bref. On n'aura pas non plus à corriger les choses. C'est bon, plusieurs décennies plus tard, là, c'est un peu inutile. Bref, Kevin, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve bien à très bientôt.